Oui.
C'est comme un Q, comment on appelle ça? Un Q, QCM, un QMC? Non. Là, on dit oui ou non. Et peut-être. Hein? Questionnaire à choix multiples. Alors, QCM. Voilà. Voilà. Donc, vous dites oui ou dites non. Pas forcément tout haut, hein. Car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants.
Oui.
Ah, il y a du lien. Bon. C'est pas nominatif. C'est pas nominatif. Je sais pas qui a répondu. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Ils sont mous ce matin. Éternel, Seigneur des armées célestes, là c'est pas obligé de répondre. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Peuple assoiffé de son salut, tout est accompli, tout est en lui, n'attendez-tu. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Famille plus forte que les forces ennemies. Dans l'obscurité, la vérité ne faiblit pas. Tant de tentations, mais Dieu est là. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les fausses ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Son sacrifice, le sang versé, et pour nous, fils du Dieu vivant, ressuscité, brillons-nous. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Entrez dans ses portes. J'ai un petit accident.
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Toi qui dispose de
choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour.
Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnom, sécurité chancelle. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de tes ailes. Viens au secours de notre âme. foi que nous chantions d'une même voix le nom de l'Éternel et notre citadelle. Il est souverain sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous.
Merci Seigneur pour ton cœur de Père. Tu m'as adopté, je suis ton enfant bien-aimé.
Spécial, où le peuple de Dieu accueille leur roi en criant Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et savez-vous ce que ça veut dire Hosanna? Sauve, sauve, s'il te plaît. La phrase hébraïque Hosanna est trouvée dans un seul passage de l'Ancien Testament, le psaume 118, 25, où elle signifie « Sauve, s'il te plaît ». C'est un cri de détresse à Dieu, comme quand quelqu'un vous pousse dans l'eau alors que vous ne savez pas nager et que vous sortez votre tête de l'eau en criant « Au secours ! Sauvez-moi ! » Hoshiyana, Hoshiyana, au secours. La signification de Hosanna est donc Hourra pour le salut. Il vient, il est là, son salut. C'est le roi, il est vainqueur. Hosanna était le mot qui a déclenché les sept jours les plus détonnants de toute l'éternité. Il n'y aura plus jamais dans l'histoire de l'humanité une semaine ni un mot qui impacterait si profondément les vies. C'était la semaine de la Pâque à Jérusalem et beaucoup, beaucoup de monde était rassemblé dans les rues de cette ancienne ville. Tous les hommes adultes et juifs devait se rendre à Jérusalem trois fois par an. La Pâque était l'une d'entre elles. Sacrée semaine pour la présentation du roi. La présentation d'un roi. Alors que Jésus marchait dans la rue bondée de foule, la foule déposait tous les manteaux sur son passage. C'était la coutume et la manière dont le peuple accueillait les rois rentrant victorieux des combats. Imaginez, le roi vainqueur qui a vaincu l'ennemi, il rentre triomphant. C'est en cela que Jésus a été élevé, glorifié. Il est le vainqueur. Cette foule enthousiaste coupait également des branches d'arbres le long du chemin et les étendait devant le roi assis sur son âne. Un anon, en fait. Tout à chacun agitait des branches au-dessus de la tête en proclamant « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux élevés !» Ces personnes-là étaient des adorateurs. Ils déclaraient « Jésus, tout ce que nous avons t'appartient !» Êtes-vous un adorateur ? Quand Jésus entre dans nos vies, notre Jérusalem, nos cœurs répondent en lui obéissant de toute notre âme, corps et esprit, en le louant sincèrement. La venue royale de Jésus dans nos vies nous transforme dans une louange tellement dynamisante qu'elle nous pousse à renoncer à notre confort et à nos habitudes. Pourquoi je me suis exclamé quand Serge a dit « Criez !» Et vous avez sursauté, hein. Eh oui, on perd ses habitudes. On est plein d'allégresse quand on a Jésus dans sa vie. On est fort et on ne craint rien. Car le roi des rois est avec nous. La présence de Jésus-Christ a-t-elle provoqué un véritable élan dans votre vie ? Avez-vous répondu à son passage triomphant dans un abandon insouciant, dans une adoration absolue ? Alors que nous préparons nos cœurs et nos vies pour sa mort et sa résurrection, il nous faut premièrement unir nos voix à celles du passé et déclarer avec passion et sincérité « Hosanna dans les lieux les plus élevés ». Hourra pour le salut. Hourra. Merci Père. Merci Père, car tu as pourvu pour chacun d'entre nous ce plan merveilleux pour notre salut. Le don de ton Fils Jésus, aujourd'hui, représenté par ce pain. Il fut brisé pour nous réconcilier avec toi, Père. Voici maintenant la coupe qui représente le sang de Jésus. Merci, Père, ce fruit de la vigne représente le sang de Jésus, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci.
Que le nom de Jésus, nul autre nom que le nom du Seigneur, nul autre nom que le nom de Jésus, n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus, nul autre nom que le nom du Seigneur, nul autre nom que le nom de Jésus, n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et est élevé au-dessus des cieux, son nom puissant emplit la terre. Son nom est élevé au-dessus des cieux, glorifié, honoré, chanté, loué son nom. Nul autre nom que le nom.
Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous voir. J'espère que vous avez une bonne nuit, bien courte, une heure de moins, comme moi. Alors ce matin, je vous apporte le message. Et le titre de mon message, c'est « Penser selon Dieu ». Penser selon la volonté de Dieu. Comment penser selon la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur penser? Il y a un verset dans le Proverbe qui dit « L'homme est comme il pense ». Important. L'homme est comme il pense. Et parce que l'homme est comme il pense, on peut déduire aussi « Dieu est aussi comme il pense ». Alors, comment est-ce que l'homme pense? C'est un petit peu le sujet de mon message ce matin. Et il faut savoir que je sais comment vous pensez, la façon que vous parlez et la façon qu'on agisse aussi. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on agit et réagit. Ça montre ce qu'on pense. Il faut savoir aussi que Dieu est comme il pense. Et ce qu'il pense, on le trouve dans l'Ancien Testament surtout. Et dans le Nouveau Testament, on voit l'accomplissement de ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Il a promis un sauveur, le Messie. Et nous voyons, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, que Jésus est venu, le Logos de Dieu. Il s'est manifesté, il est la pensée de Dieu. Et ce matin, donc, je veux développer cela. Et je vous donne d'abord un récit de l'Ancien Testament. Et on trouve cela, tout un récit, une histoire sur un homme qui s'appelle Gédéon. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez le nom de Gédéon, ce que ça veut dire? Ça veut dire cassant, abattant. Il est de la tribu de Manassé. Et il vivait dans un moment très difficile. Les croyants étaient dans un moment très difficile parce qu'ils étaient envahis par un ennemi qui s'appelle Madan, c'était de Madianite. Il y avait beaucoup de hits en ce moment. Et c'était comme des parasites. Et j'ai pensé à ce passage. Pourquoi? On sait dans ce passage de la Bible comment est-ce que lui, Gédéon, comment est-ce qu'il pensait de lui-même? Qu'est-ce qu'il pensait? Et ça, c'était ma première question. Qu'est-ce que lui, il disait de lui-même? Comment est-ce qu'il voyait? Et nous voyons dans ce passage, comme petit, il se voyait comme un zéro. Alors, Monique, si tu veux mettre ce passage, on va le lire dans le livre de Juges. Puis vint l'ange de l'Éternel, c'est chapitre 6, verset 11, ou 7, 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le terebinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, les Madianites, ils avaient l'habitude de voler la nourriture au peuple d'Israël. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il se voyait comme un petit, comme pas important, comme un zéro, mais Jésus, qui se manifeste comme un ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il le voyait d'une autre façon. Vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et on peut se poser une question, et il y a des gens qui le font, chrétiens ou pas chrétiens. On a en ce moment un moment très difficile dans tous les pays du monde avec le Covid-19. On en souffre, on dit mais pourquoi, d'où ça vient? Il y a des gens qui veulent toujours voir la source. On n'en sait rien. On se pose des questions, d'où ça vient et où est-ce que ça va? Mais en ce moment, on est en plein dedans. Peut-être on peut s'embrasser l'année prochaine ou l'année après. Soyez encouragés. Dieu sait où on est et il nous soutient. Alléluia. Moi, je le crois. Mais on est dans un moment difficile aussi maintenant. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Alors Dieu parle. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as, c'est-à-dire la force qui venait de Dieu. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, mais il se voit comme un zéro, comme petit. Oui, on continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Continuons. Encore un verset? Non. Alors ça suffit parce que Monique est fatiguée. Alors ça suffit, c'est juste un petit passage de la parole de Dieu où nous voyons que Gédéon lui-même, il se voit comme petit, il le dit, et ma famille est la plus pauvre d'Israël. Il n'a pas grande idée de sa famille, la famille est la plus pauvre, insignifiante. Et je me suis posé la question, je l'ai écrit hier, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que toi tu vois ta famille? D'où tu sors? Moi je ne voyais pas. Moi je suis l'aîné de quatre et je ne me voyais pas important et je ne viens pas d'une famille riche, pas du tout. Et puis de temps en temps, ça nous aide ou c'est contre nous ce que nous voyons nous-mêmes et nos familles. Notre papa, notre maman, comment est-ce qu'ils nous ont traités quand nous étions petits, et parfois ça nous poursuit longtemps après. L'influence de nos parents, l'influence de nos frères et sœurs, l'influence de nos familles, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que Dieu te voit? Ça c'est la question. Et quand tu t'es converti, comment est-ce que Dieu te parle dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que lui dit de lui, dit de toi? Ce qui est intéressant aussi, qu'on sait un petit peu ce qui se passe dans la famille de Gédéon. Comment est son père? C'est très intéressant. C'est la famille en Israël, du peuple d'Israël. Dieu a délivré Israël d'Égypte. Dieu a été grand et merveilleux. Il a fait des exploits pour son peuple. Et nous voyons quand même que le père de Gédéon, il avait érigé, dédié un autel à Baal. Et Baal n'était pas Dieu. C'est un faux Dieu. C'est une idole. Et par exemple, vous avez peut-être lu la Bible, il y a un verset qui parle de Baal-Zébul, c'est Satan, ça veut dire ordure, parce que c'est un faux Dieu. Et moi je crois, aujourd'hui, notre monde est vraiment rempli de Baal, ça veut dire tout ce qui est religieux qui n'est pas chrétien. Et il y a beaucoup d'émissions à la télévision. De temps en temps, je regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Et aussi en France, ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Mais parce qu'ils sont religieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens engagés. Ça ne veut pas dire qu'ils croient que Jésus-Christ est la seule solution pour eux. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre. Je suis le chemin. Et il y a beaucoup de gens qui font tout eux-mêmes pour avoir une place dans le ciel plus tard. Au lieu d'accepter que Jésus-Christ est venu pour nous préparer une place, il dit, je vais vous préparer une place, moi, c'est Jésus qui parle, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y serez aussi. Les gens qui croient ça, ils sont des chrétiens engagés. Et ceux qui font tout eux-mêmes sont de bonnes personnes souvent, mais ils essayent par leur propre force d'avoir une place dans le ciel, ça c'est religieux. Et il n'y a rien de pire dans ce sens parce que ça donne l'impression que tout est bon et merveilleux parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce qu'on est une bonne personne, on ne va pas au ciel parce qu'on est une bonne personne. Il y a seulement un qui est bon, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est difficile d'accepter pour beaucoup de gens parce que nous sommes tellement orgueilleux de nature, on n'accepte pas tout cela. Mais ce qui est très bizarre, donc, le père de Gédéon, c'est lui qui avait donc érigé, dédié un autel à Baal, une idole. Et le fils, il n'était pas d'accord avec son père, on connaît maintenant sa pensée. Papa, tu n'avais pas raison, il n'a rien dit, mais il a renversé l'autel de Baal, érigé par son père. Dieu l'a dit à Gédéon, renverse cet autel, il l'a fait. Et pour moi, c'est un signe, ce que j'ai mis sur mon papier, c'est un signe que Gédéon, il aimait Dieu et avait un bon contact avec Dieu. Il n'était pas d'accord avec son père. Donc on connaît la pensée de Gédéon. Mais plus tard, aussi un petit peu dans ce récit, quand on va plus tard, nous voyons quand même que le père, il défend son fils. Il avait un père qui était pour son fils en même temps. Et j'ai pensé, ce qui est très intéressant, quand on prend la personne de David, il y avait un homme qui s'appelle Samuel. La maman ne pouvait pas avoir des enfants, et puis elle avait un enfant après qui est devenu un grand prophète, Samuel. Et un jour, Dieu l'a envoyé dans la famille de David. Dieu dit, tu vas vendre un garçon, un fils de Jessé dans cette famille, et il sera roi d'Israël. Vous connaissez cette histoire. Et ce qui est intéressant, que le papa, il a présenté ses 6 fils. Il en avait 8, un qui est mort, 7 qui restaient. Et il avait les 6 fils, et chaque fois Dieu dit, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le 3e, ce n'est pas le 4e, ce n'est pas le 5e, 6e. C'était étonnant quand même pour Samuel. Parce que tous les fils étaient là, ils pensaient. Il dit, tu as encore un fils, mais oui, celui-là, il est dans les champs, il garde les brebis, c'était David. Il était le plus jeune. Méprisé un petit peu par son père. Et quand on lit le psaume 51, pas tout le monde est d'accord, mais il y a un verset qui donne l'impression que David était un bâtard. Il était né dans le péché, et sa maman avait peut-être une affaire avec un autre homme qui n'était pas son mari. Et quelqu'un m'a dit ça, un chrétien m'a dit ça il y a quelques années, il y a une possibilité que David était un bâtard. Il était méprisé un petit peu dans sa famille. Lui, celui-là, il est dans les champs. Mais pour Dieu, il comptait. Et quand David est arrivé, Samuel l'a loin. Et il est devenu plus tard un grand roi d'Israël. Intéressant. Méprisé par son père. Tandis que Gédéon, il était défendu par son père. Alors la question se pose, ça se peut que dans la famille, vous avez des frères ou sœurs ou parents qui ont un petit peu, vous étiez méprisés un petit peu. Mais pour Dieu, vous êtes précieux. Comment est-ce que Dieu vous voit? Moi, je viens d'une famille de la Hollande, de Haarlem. Ma maman était catholique d'origine, mon père était protestant d'origine. Et pour raconter un petit peu mon histoire, j'étais dans une famille, dans un sens, avec une religion mélangée. Je ne savais jamais quelle était la bonne religion. Quand j'étais dans la famille de ma maman, ma tante me prenait le dimanche quand j'étais chez elle dans l'église catholique. Avec mon père, 2-3 fois par an, on allait dans une église protestante. Dans une j'ai nagé pendant un certain temps dans ce climat religieux. Moi, je sais ce que ça veut dire la religion. Et ils ne savaient jamais vraiment comment était Dieu. Est-ce que Dieu était catholique? Est-ce qu'il était protestant? Est-ce qu'il était baptiste? Est-il armé de salut? Qu'est-ce que Dieu est? Je me suis posé la question et j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Jusqu'à 21 ans. Je me trouvais dans un train et le train entre Haarlem et Amsterdam. Je travaillais en télécommunication à Amsterdam. Et un jour, il y a une jeune fille qui était dans la classe de mon frère, Tony. Et elle m'a donné une invitation pour aller dans une réunion de jeunes d'une église évangélique à Haarlem. Je vous ai raconté cette histoire dans le passé. Et la première fois que j'ai mis le pied dans cette réunion
un dimanche soir, c'est le 9 novembre 1958. La première fois que je suis allé là, j'ai entendu l'évangile et je me suis converti. Première fois, j'étais dans une réunion. Là, j'ai compris, ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est Jésus. Et il y a un verset à la base de mon salut. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. C'est Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu le Seigneur Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Mais je ne savais pas ça. Parce qu'on m'avait baptisé comme petit bébé, et quand tu es baptisé dans ce petit bébé, dans la plus grande église à Harlem, alors tu es bien. Tu n'as plus besoin de salut. Et même la notion d'être sauvé et de devenir chrétien, c'est une idée étrange pour moi. Mais je suis devenu chrétien, je suis devenu enfant de Dieu en acceptant la lumière, Jésus-Christ la lumière. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Parce qu'on peut être dans des réunions pendant des années, même réunions évangéliques, sans être un brebis du Seigneur. Mais la première fois quand j'ai mis le pied dans une réunion de jeunes, Dieu m'a fortement parlé. Pourquoi Dieu m'a parlé? Parce que cette jeune fille dans le train, elle était chrétienne. Et elle me dit, quand tu vas aller dans cette réunion de jeunes, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer comment devenir enfant de Dieu. Et au fond de mon cœur, c'était cela que je voulais. J'avais un père qui m'aimait, j'avais une maman qui m'aimait, mais j'avais besoin vraiment de Dieu dans ma vie. Il y a quelqu'un dans cette réunion de jeunes qui peut expliquer comment devenir enfant de Dieu. Et parfois, nous sommes appelés par le Seigneur pour faire cela. Pour être une lumière pour les autres, pour les éclairer, parce qu'on baigne, on nage dans un monde religieux en France. Ils pensent qu'ils sont bien parce qu'ils sont baptisés dans l'église comme bébé, mais on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est baptisé comme petit bébé. Parce que l'eau qui vient sur notre tête, ou même quand on est plongé dedans, ce n'est pas l'eau qui change notre cœur. C'est Jésus qui sauve. Et nous voyons donc ici Gédéon. Et nous voyons la pensée de Dieu, qui est différente de la pensée de Gédéon. Parce qu'un jour, Dieu l'appelait vaillant héros. Tu n'es plus un zéro, maintenant tu es devenu un héros. Mais je trouve ça, c'est merveilleux. Qui peut m'aider? Parce que vous qui êtes né en France, qui êtes allé à l'école en France, qu'est-ce que ça veut dire vaillant héros? Le mot vaillant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je n'ai pas eu le temps de regarder dans le dictionnaire.
Courageux.
Donc il est devenu un homme courageux pour Dieu. Oui, quelqu'un d'autre? Donc vous avez une idée un petit peu que ça veut dire. Dieu l'a changé comme un petit zéro, devenu un vaillant héros. Alléluia. Comment est-ce que Dieu te voit? Ça fait un petit peu problème. Même étant chrétien, je ne me sentais pas toujours aimé. Et il y avait un temps, je suis dans les paracons, c'est pas sur ma famille, mais un jour, mes parents m'ont visité. Ils habitaient aux États-Unis, ils sont partis de la Hollande pour trouver leur bonheur aux États-Unis. Et une fois, ils nous ont visités et une soirée, mon père a regardé un petit peu la télévision parce qu'il avait le championnat, je crois, du monde de football. Il aimait beaucoup le football. Et on a passé ses émissions aux États-Unis à la télévision, donc il a regardé. Et quand il a regardé ses émissions, il y avait un match. Il y avait un deuxième match. Et à minuit, il y avait un troisième match. Mais il voulait continuer à minuit. Je dis, papa, maintenant c'est minuit. Je crois, c'est souffle. Moi, j'ai été fatigué. Moi, j'aime aussi le football, mais pas trois matchs à la fois. C'est un petit peu trop. Et mon père est tellement... Il s'est mis en colère contre moi tellement. Il dit, je vais partir demain. Je ne vais plus rester ici. Et tu n'es plus... dans mon héritage. Fini. Et il est parti avec ma mère le lendemain. Il nous a quittés. Et en effet, quand il est mort, pas d'héritage. Mais c'est pas grave. Mon père s'est tellement mis en colère contre moi. Et cela faisait mal, juste pour un match de football. Merci mon frère. Tu auras un cadeau dans le ciel. Parce que l'eau, quand on offre un verre d'eau, c'est dans la Bible. Ça se peut que dans la famille, vous avez eu aussi de temps en temps des affronts, des accès de colère, des problèmes un petit peu. Je n'en souffre plus, mais pendant un certain temps, j'en souffrais. Parce que ma mère était d'accord avec mon père. Ça n'avait pas seulement mon père contre moi, mais aussi ma mère. Et ça me faisait mal. Et puis Dieu m'a guéri de cela. Je peux en parler, mais sans être... Ils sont morts tous les deux, en tout cas mes parents sont décédés. Mais pendant un certain temps, ça me faisait mal. Pas pour l'héritage, ça c'est pas si important. Mais d'avoir des parents qui sont contre toi juste pour un match de football. Pourquoi j'ai dit, papa ça suffit, parce que quand il allait sur l'escalier pour aller dans la chambre, il marchait comme un éléphant. Et Beryl est en train de dormir, je dis, mais il va réveiller toute la famille. Moi je voulais un petit peu, comment dire, je voulais protéger la famille un petit peu, protéger mon épouse, ma fille, contre le bruit que mon père allait faire peut-être. Peut-être vous avez aussi eu des pensées un petit peu dans la famille, ou des amis autour de vous, des voisins, ceux qui vous ont fait mal. Mais un jour Dieu m'a parlé, maintenant je suis chrétien, il m'a dit, John, je t'aime, c'est tout. Pendant la nuit, j'étais réveillé et j'avais mal. Et Dieu dit, John, il m'a dit mon prénom. John, je t'aime, et ça me suffit. J'ai été guéri de beaucoup de choses, parce que Dieu m'aime. Même si les hommes ne m'aiment pas, même les chrétiens, peut-être, on a peut-être de temps en temps des petits heurts, des petits problèmes, mais Dieu m'aime. Et Dieu vous aime, parce que Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, vous êtes dans le monde, Dieu vous aime. Même si vous avez l'impression de ne pas être aimé, Dieu vous aime. Et je crois aussi, Gédéon avait besoin de cela. Ce qui est merveilleux, que Gédéon, un homme de rien, qui se voyait comme un héros, aux héros, mettant Dieu qui dit, tu es un héros, Dieu dit un jour à cet homme, Gédéon, je veux que tu vas maintenant préparer une armée pour délivrer ton peuple. Donc, il a appelé Gédéon, les hommes de 4 tribus pour former une armée. Et il y a plus de 28 000 hommes qui sont venus de 4 tribus pour former une armée pour délivrer Israël de Madianite. Ce qui est intéressant, comme nous savons dans la Bible comment nous pensons, mais aussi comment Dieu pense, comment est-ce qu'il pense. À deux reprises, Dieu dit à Gédéon de renvoyer beaucoup d'hommes à la maison parce qu'il y avait trop. Il y avait trop d'hommes encore qui étaient là, dans l'armée. Pourquoi est-ce que Dieu les a renvoyés à la maison? Il y avait plus de 28 000. Dieu a renvoyé à deux reprises des hommes parce qu'il ne veut pas donner la gloire à l'homme. Ça, c'est intéressant aussi, 28 000. Il y a 300 qui sont restés. Et ces 300 hommes qui sont restés, Dieu a montré à Gédéon comment faire, de diviser en trois groupes. Et ces 100 qui sont à 5 heures, 6 heures le matin, ils se sont groupés ensemble, 100 autour de l'armée de Madian. Et ils sont allés là avec leur guitare, Jacques, avec la guitare. Oui, donc ils sont allés là avec leur trompette, chauffard, non trompette, tu dis chauffard mais j'ai regardé, le mot est trompette encore, mais peut-être il y avait des chauffards aussi, il n'y avait pas de chauffeur mais il y avait des trompettes, Et puis, il y avait aussi donc des cruches. Ils ont pris leurs cruches avec le feu dedans. Et à un certain signal, Gédéon dit, je vous donne le signal, vous cassez la cruche, vous sonnez la trompette, tous en même temps, imagine les 300 hommes autour. Et l'ennemi, quand ils ont entendu le son, ils se sont réveillés à 5 ou 6 heures, ils ont vu le feu tout autour d'eux, ils ont entendu les trompettes qui sonnaient très très fort, et puis ils ont pensé qu'il y avait une énorme armée autour d'eux. Et ils se sont entretués, et il y a beaucoup de soldats qui sont enfuis, qui se sont enfuis aussi. Donc, il y avait des cruches avec des flambeaux dedans. Et cela donne donc l'impression à l'ennemi qu'il y avait une grande armée face à eux. Donc les soldats de l'ennemi se sont entretués et le reste se sont enfuis. Qu'est-ce qui est arrivé après? Les gens d'Israël, comment est-ce qu'eux ils ont pensé après cet exploit de Gédéon? C'est aussi dans la Bible, ils voulaient que Gédéon devienne le roi. Comment est-ce que Gédéon a pensé? Il a pu penser, ah, c'est merveilleux, moi j'ai été un zéro, je suis devenu un héros parce que Dieu le dit, maintenant il veut que je devienne roi, ça c'est merveilleux d'être le roi. Pas du tout. Qu'est-ce que Gédéon a pensé? On sait. Gédéon a refusé disant, c'est l'Éternel qui est le souverain d'Israël. Parfois on aimerait bien qu'on soit un petit peu glorifié par les autres. Attention, la gloire appartient à l'Éternel. J'ai appris beaucoup de choses sur la pensée de Dieu, la pensée de l'homme, la pensée de l'ennemi. Comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que moi je pense? Donc dans ce récit, nous avons vu comment Gédéon a changé ses pensées sur lui-même, sur le nombre de soldats, parce qu'il pensait, merveilleux, on a une grande armée, 28 000 hommes. Mais Dieu dit, non, je n'ai pas besoin de 28 000. 300, c'est suffisant. Seulement un petit nombre. Et vous savez ce qui est merveilleux dans ce récit aussi, ce que je pense? Ces 300 soldats qui sont restés, ils ne se sont même pas battus. Ils n'ont rien fait, dans un sens. Sonné la trompette, ils ont joué de la guitare. Ce n'est pas rien, mais tu le fais pour le Seigneur, et tu fais ça aussi pour nous, Jacques. Mais ils ne se sont même pas battus. Et je trouve ça, c'est merveilleux. Et j'ai pensé à cette histoire de Jéricho. Il y avait Jéricho avec un mur qui est autour de la ville. Et un jour, Josué a reçu donc des consignes de Dieu. Et tout ce qu'il devait faire pendant une semaine, marcher autour de Jéricho. Ils ne se sont même pas battus et les murailles sont tombées. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? On n'a pas besoin de se battre de temps en temps. Seigneur, c'est toi qui agis. Quelle est ta pensée de Dieu? Est-ce que tu dois te battre toujours ou laisse Dieu battre pour toi? Mais je trouve ça, c'est pas facile. Mais laisse Dieu agir. Vous savez, ce qui est difficile pour nous, c'est d'avoir de la patience. Parce que de temps en temps, on veut que ça bouge immédiatement et Dieu, il a son temps. Il a son temps parce qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Et ça, c'est une pensée intéressante. Alors, ça, c'est un petit peu l'histoire de Gédéon que je voulais raconter. Je continue un petit peu avec la théorie qui va avec. Comment bien penser? Ça, c'était donc mon message. J'ai beaucoup réfléchi à cela pendant 2-3 semaines. Combien bien penser? Comment penser selon Dieu? Alors, je suis venu à la conclusion, pour bien penser selon Dieu, on a besoin de la perception de Dieu sur notre vie et sur la vie des autres. Cette perception de Dieu, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Cette perception de Dieu sur notre vie nous parvient par le Saint-Esprit et par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Pour recevoir la perception de Dieu sur notre vie, nous avons donc besoin de considérer ce que Dieu dit de nous et pas ce que les hommes pensent de nous. Et ça prend du temps. Ce n'est pas si important ce que les hommes pensent de nous, mais ce que Dieu dit de nous. Et j'ai dit déjà, David, il était méprisé par son père peut-être, méprisé par ses frères, celui-là alors. Mais pour Dieu, il est devenu le roi d'Israël. Et le nom de David, c'est merveilleux, ça veut dire aimé. Aimé de Dieu. David, c'est un nom merveilleux. J'ai une fille qui s'appelle Christine, mais si j'avais un fils, peut-être David, c'est un nom merveilleux. Je ne sais pas s'il est de David ici dans l'assemblée, mais David est un nom merveilleux, mais je trouve. Méprisé par son père, mais il aimait par Dieu. Vous savez, Jésus, quand il avait ses disciples-là avec eux, avec lui, il a dit un jour, je ne vous appelle pas esclave, mais vous êtes mes amis. C'est quoi pour vous un ami? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager tout et il ne va pas vous juger. J'ai beaucoup de connaissances, moi, beaucoup de connaissances, mais peu d'amis. Mais quand on a un vrai ami, tu peux dire tout ce qui est dans ton cœur, ce que tu penses, il ne va pas te juger après. Pour moi, c'est un vrai ami. Il y en a peu. Souvent, j'ai remarqué, parce que j'ai eu tout un entraînement et donc une formation pour être conseiller, ma femme aussi, ensemble, on a fait ça pendant des années, on a donné des cours sur la relation d'aide. Ce que j'ai remarqué souvent, quand quelqu'un vient avec ses problèmes et tu n'es pas formé à cela, tu vas dire après 5 minutes, et moi aussi. Et puis tu commences à raconter ton histoire, tandis que la personne vient pour raconter son histoire. C'est très difficile d'écouter les autres. Et c'est remarquable que je dis à ses disciples, vous êtes mes amis, vous n'êtes pas des doulos, en grec c'est doulos, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis. Mais je trouve que c'est remarquable que Jésus veut être mon ami, je peux lui dire tout. Et il écoute. Jésus dit aussi que nous sommes ses brebis. Il y avait un ami américain une fois qui est venu dans notre assemblée à Tourcoing où j'ai été pasteur pendant des années et il dit Jésus nous appelle ses moutons. Quelle est la différence entre mouton et brebis? Est-ce que vous le savez? J'ai regardé dans le dictionnaire. Il y a une grande différence. Mouton, ce sont des... Dans ce sens, sont des brebis mâles, châtrés. Un mouton, c'est un mâle châtré. Et une brebis est toujours femelle. Mais nous sommes tous des brebis. Ce qui est intéressant quand même. Et Jésus est le bon berger. Et ça, c'est... Je suis le bon berger. Jésus est mon bon berger. Et j'aime beaucoup. Et David, plus tard, il savait que Dieu prenait soin de lui. Et c'est pour cela que je parle du psaume 23, le plus connu dans tous les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il est mon bon berger. Et dans toutes ces années en France, Beryl et moi, ma femme et moi, nous nous sommes aperçus que Dieu, il est notre berger, il prend soin de nous. Et il sera aussi pour vous. C'est merveilleux d'entendre la voix de Dieu. Et parfois, on entend aussi un petit peu d'autres choses. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le Nouveau Testament, ce qui concerne la pensée. Nous avons besoin d'avoir la pensée de Jésus-Christ, la façon de penser de Jésus-Christ. Et la façon de penser, il y a un mot en grec qu'on peut employer, en France aussi, c'est le mot mentalité. Quelle est ta mentalité? On va voir Philippiens 2, verset 5. Et peut-être, ça dépend de la version que vous avez. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Le mot sentiment n'est pas juste. Il y a des versions en français, des versions bibliques, des traductions qui disent pas sentiment. Le mot est pensée. La traduction n'est pas bonne car le grec en trouve le mot phronéité. P-H-R-O-N-E-I-T-E, accent. Fronéité, ça veut dire pensée, mentalité. Ayez en vous la mentalité. Et en France, on a beaucoup de problèmes entre le mot sentiment et pensée. Et la dernière fois, quand j'ai donné un message ici, il y a 4 semaines, j'ai parlé de cela. Dans ta version, c'est pensée, Serge? C'est pensée, mentalité?
Non, c'est attitude identique.
Comment?
Que votre attitude soit identique.
Mais nous avons besoin d'avoir la mentalité de Jésus-Christ. Et c'est quoi? Il s'est humilié lui-même. C'est dans le verset. C'est toujours quand on continue avec Philippiens 2. Nous avons besoin de la mentalité de Jésus. Lui qui était Dieu, il est devenu homme. Et puis, il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. Pour moi, le mot humilié n'est pas un mot négatif, n'est pas un mot méchant, n'est pas un mot qui est négatif. Ça veut dire, nous devons, devant Dieu, nous ne sommes pas grand chose. Mais il veut faire de nous quand même des enfants de Dieu. Il nous a placés dans sa famille. Il m'a donné de la valeur. Pour Dieu, je compte. Comme j'ai dit, au lieu d'être zéro, il est devenu un héros. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Dieu prend souvent les gens qui ne sont pas comptés pour les autres. Peut-être dans ta famille, tu n'étais pas tellement important, on ne te comptait pas, mais pour Dieu, tu es important. Et ça, c'est que je voulais que vous ayez ça dans votre esprit, la mentalité de Jésus. Et un petit peu plus loin, c'est Philippiens 2,15, je pense. Que Dieu nous appelle, Jésus nous appelle des lumières dans le monde. Vous êtes lumière, vous êtes du sel, vous êtes des flambeaux. Non, flambeaux, voilà. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais je trouve que c'est merveilleux. Nous sommes appelés des flambeaux dans le monde parce que je crois que le monde a besoin de lumière aujourd'hui. La lumière sur Jésus, qui est la lumière du monde. Vous ne pensez pas dans votre travail ou dans votre quartier, ils ont besoin de l'éclairage de Dieu sur lui. Et je crois que les chrétiens, nous aussi, nous avons besoin de la lumière de Dieu sur notre vie. Comment est-ce que Dieu pense de nous? Et nous devons entrer dans la pensée de Dieu. Comment est-ce que Dieu pense? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que vous pensez? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais on le chante tous ces chants, hein, merveilleux. Moi j'ai appris, je dis ça à Jacques, mais pour tout le monde qui chante ou qui joue des instruments, on peut apprendre énormément des choses intéressantes et importantes sur Dieu, dans des bons chants. Et ça, c'est important. J'ai presque terminé. En conclusion, comme nous avons vu, la faculté de pouvoir penser est une faculté importante pour vivre selon la volonté de Dieu. Les animaux, ils ont des instincts, tandis que l'homme, il peut penser. Remplissons donc nos pensées avec les pensées de Dieu. Parce que l'homme est comme il pense, et Dieu est comme il pense. J'ai dit ça au début. Commençons aujourd'hui de faire cela, et nous recevons de Dieu ses instructions, sa paix, et sa joie dont le monde a tellement besoin. C'est cela pour chaque jour. Si je veux juste prier avec vous, si vous voulez vous mettre debout, on va juste prier. Seigneur, merci de nous aider de penser correctement, selon ta parole, et de pouvoir saisir ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour des exemples que tu donnes dans la Bible, Seigneur, comme un homme, Gédéon, qui ne comptait pas peut-être beaucoup dans sa famille, mais pour toi, Seigneur, il comptait. Lui qui était zéro, il est devenu général de l'armée. Et tu veux faire pour nous, Seigneur, aussi des gens qui sont responsables, qui prennent, Seigneur, leur place dans ton royaume, dans ton armée. Je te remercie pour ce matin, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous jusque maintenant. Et nous pouvons compter sur toi pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez compter sur Dieu, sur tous les détails de votre vie. Pour Dieu, vous êtes important. Et je vous bénis ce matin. Soyez bénis, soyez fortifiés. Devenez aussi comme des David, comme des Gédéons pour le Seigneur, des héros vaillants. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.